Nous vivons une époque formidable.
Quoique.
Bienvenue dans les matinales de Barthas.
À partir de 8h30.
Quoique.
Le lundi, le mercredi.
Beaucoup de local.
Et puis, un peu d'autre chose.
Les matinales de Barthas.
En direct.
Sur le 107FM.
J'ai retrouvé mes lunettes.
Allez, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Barthas, bienvenue sur le 107. Nous sommes le mercredi 2 juin, il est 8h30. Comme la météo l'indique, bah c'est l'été, du coup j'ai mis du smooth, voilà, j'ai enlevé les cris et le rock'n'roll, voilà. Ah, si la crise avait un son propre et sophistiqué, c'est sans doute lui qui l'aurait inventé à la technique Corto, salut.
Oh, il est à l'animation, ce que Pixar est au cinéma. Bonjour Ben.
La classe.
Bonjour à tous.
Tu l'avais préparé celle-là.
Ah oui, celle-là j'ai pensé.
T'as vu cette chill hein, comme intro.
Ah, c'est pas mal, ça me plaît bien.
Ouais. Allez, au programme de cette matinale, nous serons dans un instant avec Philippe, qui est président de l'association Enimi BD. Ce week-end, dans la petite bourgade, l'asso s'associe aux 48 heures de la BD. On en parle avec lui après l'édito. Et en deuxième partie d'émission, c'est Élise qui nous rejoindra. Ce sera une grande première pour moi. Nous parlerons de mode, de stylisme, de modélisme avec elle, en tout cas ça sera tout à l'heure. La musique aujourd'hui c'est 100% Claude Nougaro, j'avais envie, c'est voilà, c'est trop cool. Et aujourd'hui, enfin voilà, et on commence bien sûr mon Corto, si tu veux bien parler d'Ito.
On peut être en désaccord. Mais enfin, vu le ramassis de saloperie que je vous ai dégoté là.
Ce n'est que l'édito des Barthas. Ce sont des prénoms dont la résonance est devenue nationale. Chat Inès, 31 ans, mère de 3 enfants, immolée par le feu en pleine rue le 4 mai à Mérignac, en Gironde. Stéphanie, 22 ans, mère d'une fillette de 3 ans, elle aussi tuée en pleine rue à coups de couteau le 24 mai à Hayange, en Moselle. Toutes deux avaient déjà déposé plainte. Le mari de Chat Inès, dont elle était séparée, avait déjà été condamné pour violence conjugale et bénéficiait d'un aménagement de peine. La mort de la jeune femme est un échec collectif, a reconnu Marlène Schiappa, secrétaire d'État en charge de la citoyenneté, alors qu'elle a dévoilé les premières constatations de la mission d'inspection lancée par le gouvernement, pointant une série de, je cite, « défaillances et de dysfonctionnements ». Les conclusions définitives de ce rapport doivent être rendues le 10 juin prochain et un travail d'autocritique similaire, lui aussi mené par l'inspection générale de l'administration et l'inspection générale de la justice, a été entrepris pour le cas de Stéphanie. D'ici là, la colère gronde contre les féminicides et une forme d'impuissance à lutter contre les violences conjugales, 18 mois après la fin du Grenelle, vous vous souvenez ? Ces féminicides auraient pu être évités. Tous les signaux d'alerte étaient au rouge. L'institution n'est pas capable de protéger les femmes. C'est ce que fustige Léonore Guénon du collectif féministe hashtag nous toutes. L'an dernier, dans l'Hexagone, ce sont 90 femmes qui ont été tuées par leur conjoint ou leur ex. Combien sont-elles à avoir tenté de trouver de l'aide ? Un rapport de l'inspection générale de la justice publié en novembre 2019 démontrait déjà à quel point les alertes étaient, et trop souvent, sans réponse. Et ça fait des années et des années et des années que le problème est là, rien ne bouge ou si peu. Croisons les doigts pour que cette fois-ci de vraies dispositions législatives soient prises. Il y en a marre et c'est un euphémisme. Allez, on prend une bouffée d'air dans un instant, on parle de toute autre chose, on écoute d'abord Claude Nougaro, le jazz et la java.
Quand le jazz est là, la java s'en, la java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java. Chaque jour un peu plus, y'a le jazz qui s'installe. Alors la rage au cœur, la java fait la malle. Ses petites fesses en bataille sous sa jupe fendue. Elle écrase sa gauloise et s'en va dans la rue. Quand le jazz est là, la java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java. Quand j'écoute Béar un solo de batterie, v'là la java qui râle au nom de la patrie. Mais quand je crie bravo à l'accordéoniste, c'est le jazz qui m'engueule me traitant de raciste. Quand le jazz est là, la java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java.
pour moi jazz et java c'est du pareil au même. Je me saoule à la Bastille et noircie à Harlem. Pour moi jazz et java dans le fond c'est tout comme. Quand le jazz dit gomène, la java dit gomme. Mais quand le jazz est là, la java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java. Jazz et java copains, ça doit pouvoir se faire. Pour qu'il en soit ainsi, tiens, je partage en frère. Je donne au jazz mes pieds pour marquer son tempo. Et je donne à la java mes mains pour le bas de son dos. Et je donne à la java mes mains pour le bas de son dos.
Ça groove, Claude Nougaro, le jazz et la java. Nous sommes par téléphone avec Philippe, bonjour.
Bonjour.
Ah, quand on commence à savoir au téléphone, c'est que ça fleure bon l'été. Le festival de BD de Saint-Enimi, ce sera début juillet, mais la BD est déjà à l'honneur ce week-end là-bas. Ce sont les 48 heures de la BD. Alors, si t'es avec nous par téléphone, c'est que vous êtes en pleine préparation. Avant d'en parler, déjà, c'est quoi les 48 heures de la BD?
Alors, c'est un dispositif des éditeurs européens pour permettre un accès très privilégié à la bande dessinée, puisque ces éditeurs-là font l'effort chaque année d'éditer des BD de leur collection à 2 euros, au prix de vente bloqué à 2 euros, et seulement sur les lieux qui relaient cette opération, dont nous faisons partie maintenant pour la troisième année.
Alors c'est du neuf ?
C'est du neuf. C'est du neuf et c'est du bon, parce que en fait les éditeurs en profitent pour mettre en évidence des débuts de collection ou des parties de collection qui vont donner ensuite envie aux lecteurs, bien sûr, de continuer.
Alors cette année, ça se passe en deux temps avec une journée de formation pour les pros. Ce sera le vendredi, animé par Olivier Berlion, c'est ça ?
Tout à fait. Olivier Berlion est l'illustrateur de notre affiche 2021. C'est un professionnel largement reconnu au niveau international. Il a une bibliographie longue comme une page et il nous fait le plaisir d'être donc aux côtés des bibliothécaires et des enseignants qui ont souhaité pouvoir se former pour d'abord être sensibilisés bien sûr au 9e art et surtout pouvoir faire partager leur passion à leur public et donc animer notamment des situations d'animation ou d'atelier dans leur lieu scolaire ou bibliothèque.
Est-ce qu'il y a encore temps, si ça intéresse des profs ou quoi, de s'inscrire ?
Oui, c'est possible. Alors, pour ce qui est des bibliothécaires, ça se fait via le réseau départemental, c'est-à-dire la médiathèque départementale de la Lozère. L'interlocutrice, c'est la coordinatrice de ce réseau, c'est Claire Ménétrier. Et puis, pour ce qui est des enseignants, il faut qu'ils sollicitent à ce moment-là une autorisation auprès de leur inspecteur de l'éducation nationale de circonscription.
Et je mettrai les liens et les contacts sur notre site dans un instant. Et pour le reste, que nous préparez-vous ?
Alors, pour le reste, eh bien, donc, après cette journée professionnelle du vendredi, une journée grand public le samedi, avec, j'allais dire, un cocktail un peu habituel dans ces rencontres, c'est-à-dire le fait qu'il y ait à la fois de la vente de BD donc à tarif privilégié, à 2 euros, on vient de le dire, mais aussi des petites animations autour du livre, avec la présence d'un éditeur invité, nos amis qui sont très proches et qui sont dynamiques dans le domaine de la BD, c'est-à-dire les éditions du Larzac, qui viennent donc nous visiter à cette occasion et qui amènent dans leur valise non seulement leur production, mais aussi un ou deux auteurs en dédicace, dont Muriel Lacan, bien connue sur ce secteur puisqu'elle a notamment commis La Brebis Galeuse, un triptyque assez magique sur la façon dont elle voit le COS, son passé et son devenir. Parallèlement donc à ces animations, une petite surprise, mais dont nous allons parler, je suppose.
Dans la cité médiévale de Saint-Enimi, le drac et la princesse se livrent une lutte impitoyable pour conserver le trésor du monastère, sa bibliothèque de BD. C'est ça la surprise ?
C'est ça. Alors c'est ça, c'est même doublement ça, parce que bon, ça c'est ce qui fait l'accroche pour que ce jeu, ce jeu de piste en quelque sorte, ouvert à tous, aux familles bien sûr, mais aussi à ceux qui veulent venir, qu'on pourra regrouper une petite équipe ou qui pourront participer individuellement. C'est un jeu ouvert en continu, donc pas besoin de se dire « mince, j'ai raté l'heure, il fallait y être à 10h et puis je suis pas là ». On peut participer au fil de l'eau tout au long de la journée du samedi, de 9h à 18h. Et le but de ce jeu, bon, bien sûr, c'est de parcourir les ruelles et les placettes de la cité médiévale, de se faire plaisir en réfléchissant autour de la bande dessinée, mais surtout, c'est un peu ça notre nouveauté de l'année, nous avons, à la demande de la DRAC, sauvegarder notre patrimoine de dessins illustrés, de bâches illustrées, que nous avons depuis une dizaine d'années, c'est-à-dire que chaque année, les auteurs nous offrent un dessin de leur personnage préféré, sur un de nos éléments de proximité, paysage, architecture, ruelle, placette, etc. Et ces dessins ont constitué une superbe collection que nous avons donc maintenant édité non plus en bâche souple comme on le faisait d'habitude pour faire de la signalétique au moment du festival ou de nos événements, mais en dur, entre guillemets, c'est-à-dire sur des panneaux alus qui sont installés maintenant dans la cité médiévale depuis le fil de l'eau au bord du Tarn jusqu'en haut au monastère. Et ça constitue ainsi un parcours de découverte. Comme à Angoulême, il y a des murs peints pour découvrir la ville, comme à Sète, il y a du street art, et bien chez nous, maintenant, il y aura ces panneaux de découverte illustrés qui vont permettre aux visiteurs de flâner, mais aussi en même temps de s'en mettre plein les yeux.
Et bon courage pour organiser tout ça et installer tout ça aujourd'hui sous la pluie, c'est génial.
Alors heureusement, on est un peu prévoyant et on avait anticipé, donc dès lundi, on était sur le terrain. Et il y a aujourd'hui les trois quarts des panneaux qui sont déjà en place, donc on va espérer que le soleil nous accompagne quand même cet après-midi.
C'est sûr, je vous reconnais bien là. C'est pas trop difficile d'organiser des événements comme ça en ce moment?
Alors c'est jamais simple, parce qu'on est toujours pris entre le risque de baisser les bras au regard du contexte, et puis en même temps l'enthousiasme de se dire si on fait, il y aura des gens, parce que de toute façon tout le monde a envie de bouger en ce moment.
C'est sûr.
Et c'est ce qui nous a l'an dernier mobilisé pour maintenir notre festival malgré tout dans le contexte de 2020. Et c'est ce qui fait que cette année on s'est même pas posé la question, on s'est dit de toute façon on a un programme événementiel, on a nos 48 heures de la BD début juin, le festival les 4 et 5 juillet. On avance, on a rencontré bien sûr les autorités en préfecture afin de pouvoir valider nos démarches. Et aujourd'hui, on y va avec la prudence qui a été la nôtre en 2020, mais avec la passion qui nous anime et qui est que la BD, elle a toujours sa place.
C'est ça, ce week-end, c'est une jolie entrée en matière pour le festival BD qui aura lieu début juillet cette année, dont nous parlerons évidemment sur cette antenne avec une jolie surprise qui aura lieu fin juin. L'année dernière, Philippe, vous avez explosé le score d'affluence.
Et oui, l'an passé, bon, notre audace a payé, entre guillemets, puisque on a été les seuls en France à réouvrir un festival de BD début juillet. Et, tous ceux du printemps, malheureusement, avaient sauté. Presque 290 festivals avaient sauté. Et donc, les amateurs, et surtout les amateurs éclairés, sont venus de loin, de très loin, et en nombre, parce que ils étaient en manque, hein, c'est tout simple. Hein, quand on a l'habitude de rencontrer des auteurs, qu'on a le plaisir de partager avec eux au fil de leur production, il y a des mois sans ça, c'est difficile pour les amateurs éclairés. Et donc, on a vu arriver des gens qu'on ne voyait pas d'habitude, de Suisse, de Belgique, de Bretagne, de Lorraine, etc., de loin donc, mais qui en ont profité en plus pour grouper à la fois leur venue sur le festival et puis une visite du territoire, des Gorges, des Cosses, des Cévennes, ce qui veut dire que quelque part, le festival trouve bien sa place en termes de dynamique d'accueil.
C'est clair. Tu as parlé des éditions du Larzac qui seront donc présentes ce week-end. Est-ce qu'il y en aura d'autres?
Alors ce week-end, non. On a, comme les 48 heures de la BD, c'est pas non plus un gros événement. On ne voulait pas que les gens confondent, je crois que c'est ça le message le plus important, avec le festival, où il y aura cette année une trentaine d'auteurs. C'était plus un clin d'œil pour des amis qui sont proches, qu'on a accueillis souvent, parce que ce sont des éditions alternatives qu'on a à cœur d'encourager, et qui viennent de subir eux aussi depuis un an et demi une difficulté dans leur diffusion, et donc c'était une façon de les encourager, de leur redonner un peu envie de sortir et puis envie de voir du monde et de montrer que leurs publications sont de qualité.
Bien sûr. Et pour finir sur le festival qui aura lieu donc début juillet, vous reprenez la forme de l'année dernière, il va y avoir des nouveautés ou bien ce sera la même chose grosso modo?
Alors, l'année dernière, par les conditions sanitaires, bien sûr, on a été obligé de faire évoluer fortement notre organisation. Je pense qu'on en a tiré un certain nombre de points positifs. Le premier, c'était la date. Comme je l'expliquais à l'instant, le fait que ce soit début juillet a permis à certaines de faire une conjonction entre venir au festival et découvrir la région en tant que vacancier. Donc ça, c'est vraiment l'opportunité qu'on a repris cette année. Ensuite, l'organisation dans l'espace. C'était un pari. Nombre de professionnels du monde de la BD nous ont dit « Attention, c'est souvent un pari difficile, voire souvent raté. » On a éclaté dans l'espace en plusieurs lieux et ça a fort bien fonctionné. Et donc, on va reprendre ce schéma-là avec, bien sûr, ce qu'il faut, parce que pour nous, ce qui fait marcher les choses, c'est l'illustration. Et donc, l'an dernier, on a fait inventer un petit personnage à un de nos illustrateurs préférés, Jean-Marc Stelner, qui nous a inventé Toupinas. Et donc Toupinas sera de nouveau présent avec ses petites illustrations pour nous indiquer ici une salle, là une circulation, là une animation ou un autre atelier, de sorte que les gens aient envie de se déplacer dans l'espace et puissent bénéficier des trois des quatre espaces cette année qu'on va leur ouvrir, mais je n'en dis pas trop pour le moment. Ouais. Nous aurons l'occasion d'y revenir.
Bien sûr. Et pour y être allé l'année dernière, j'avoue que c'est très agréable comme ça, je ne sais pas, d'avoir plus d'espace, il y a quelque chose de plus aéré.
Oui, et puis en plus, pour nous, ça a été aussi l'occasion de mettre des espaces thématiques. Donc, bien sûr, un espace jeunesse, ça, pour nous, c'était déjà une habitude, puisqu'on travaille beaucoup avec les scolaires tout au long de l'année, dans l'ensemble du territoire lozérien. Mais on a également fait une place au manga. Et le manga va retrouver une belle place cette année, et il la trouve déjà en ce moment, puisque cette semaine, parcourant les routes lozériennes, un mangaka lyonnais est en train de faire partager son talent aux écoliers et aux enfants des bibliothèques tout au long de la semaine. Et d'ailleurs avec un bel aboutissement, puisque pour revenir sur les 48 heures, sur les 10 ouvrages qui sont proposés à 2 euros, il y en a 5 qui sont des mangas cette année, qui prouvent bien que ce genre est en train de prendre toute sa place, et notamment en direction du public jeune, qui le prise particulièrement.
Pour revenir aux 48 heures, là, une petite précision, c'est peut-être moi qui ai mal compris, le jeu de piste, on peut aussi le faire le vendredi ou ce sera uniquement le samedi?
Non, le jeu de piste, c'est dans la journée grand public, ça n'est que le samedi 5 juin.
Ainsi,
voilà, toute la journée, de 9h à 18h.
Ainsi donc,
la journée du 4 juin, elle est consacrée aux professionnels.
Ainsi donc, voilà, allez auditeurs et auditrices, samedi donc de 9h à 18h à Saint-Enimy, il y aura du jeu, de l'atelier, de l'expo, il y a un petit peu de dédicace et de la vente d'ouvrages surtout, d'ouvrages neufs à 2 euros. Le tout à l'espace Burle. Ben voilà, toutes les infos sont sur le site enimy-bd.fr. Merci Philippe.
Merci Ben, à bientôt.
C'est un grand plaisir et on se voit très 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 bientôt. Ciao.
Bye bye.
Allez, on parle de stylisme et de modélisme dans un instant avec Kélis qui nous rejoint. On écoute d'abord, ouais, j'avais envie de Claude Nougaro ce matin, à la mode. C'est parti.
Toi, tu savais t'habiller à la mode de l'amour, à la mode de toujours. Toi, tu m'en as fait parler, mais il faut dire entre nous que tu avais du goût. Tu portais au printemps des yeux mi-biche, mi-braise, et la bouche assortie, mi-boudeuse, mi-fraise. Et tu portais aussi ce corps de femme-enfant qui dit je te permets en disant je te défends. Toi, tu savais t'habiller à la mode de l'amour, à la mode de toujours. Oh, 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 toi, tu m'en as fait baver, mais il faut dire entre nous que tu avais du goût. En été, tu portais une peau pleine d'épices avec une vague bleue drapée autour des cuisses. Et la nuit, tu gardais le soleil de midi dans tes cheveux dorés. Ça éclairait mon lit. Toi, tu savais t'habiller à la mode de l'amour, à la mode de toujours. Oh, 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 toi, tu m'en as fait baver, mais il faut dire entre nous que tu avais du goût. Un beau soir, t'as sorti ta collection d'automne, de longs regards mouillés et des bras qui frissonnent. Mais la ligne de ton cœur s'est aussi transformée, mille lueurs, feu de bois, mis s'envole en fumée. Toi, toi, tu m'en as fait baver, mais il faut dire entre nous que tu avais du goût. En hiver, tu m'as dit, je n'ai plus rien à mettre, assez, moi j'ai compris que t'allais disparaître. Et la veille de Noël, te serrant contre moi, la neige de ton corps a fondu dans mes doigts. Toi, tu savais t'habiller à la mode de l'amour, à la mode de toujours. Et moi, je me suis rhabillé à la mode de toujours, quand se termine l'amour.
C'est l'occasion qui fait le larron, comme on dit, et c'est avec plaisir que j'accueille Élise. Bonjour.
Bonjour.
Élise, tu es styliste, on va parler de mode ce matin, c'est ma grande première. Alors, déjà, on va contextualiser, c'est quoi être styliste ?
Je suis styliste et je suis modéliste, donc ce sont deux choses très différentes. Styliste, c'est-à-dire que tu crées par dessin les silhouettes voilà, que tu habilles, que tu inventes des vêtements, tu les crées. Modéliste, c'est prendre un dessin qui est de toi ou de quelqu'un d'autre et le mettre en forme, en volume, sur un mannequin. Souvent une vraie fille.
Mmh. Voilà. Là, je viens de comprendre déjà. Ça ouais. Tient pas mal. Alors, comment on en arrive là ? Comment t'en es arrivé à travailler dans la mode ? C'est quoi ton parcours finalement ?
Mon parcours, c'est m'opposer à ce que mes parents voulaient me faire faire. Voilà. Depuis gamine. Quand je raconte une petite anecdote.
Avec plaisir.
Quand j'étais gamine, il y a eu l'arrivée, on juge du bienfait des choses ou pas, ou de ce que ça véhicule, je m'en fiche, mais il y a eu l'arrivée des Barbies.
Ah, la fameuse.
En Europe, ouais. La Barbie est arrivée. Barbie coûtait la peau des fesses à l'époque. Voilà, moi, 4 enfants à la maison, il était bien évident que je n'allais pas recevoir de Barbie. J'avais 12 ans.
Ouais.
Et j'ai commencé à fabriquer des poupées que j'ai habillées de toutes les façons possibles et imaginables.
C'est vraiment l'enfance qui t'a tout d'un coup déclenché une passion pour ça.
Ah oui, j'adorais coudre. Voilà. Ensuite, à 15 ans, j'ai fait quand même des cours de coupe et de couture en cours du soir pendant 3 ans. Et à 15 ans, j'habillais toutes les dames de la rue sur mesure.
C'était où ça ?
À Bruxelles. Voilà.
Ah, j'adore Bruxelles, pour plein de raisons en plus. Et donc voilà, c'est parti, c'est devenu ton métier directement, quoi, c'est-à-dire que...
Non, j'ai fait 4 ans d'études de stylisme et de modélisme. J'ai fait aussi un parcours d'architecte d'intérieur et de designer. Voilà, et puis je me suis lancée à une époque où tout était merveilleux.
Il y a encore beaucoup de choses de merveilleuses, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont un peu parties en vrille quand même.
Ah non, oui, c'était incroyable. Donc c'était en 69, tu jetais une pelote d'épingle en l'air, elle retombait cousue, quoi.
C'est une belle image, j'adore.
Voilà, et donc j'ai fait ma première collection, qui était une toute petite collection, il y avait peut-être 6 ou 7 pièces. Et en 15 jours, j'ai eu 6000 pièces en commande.
La classe.
Je suis partie en stop. Avec ma valoche remplie de mes collections, faire le tour des boutiques de la mer du Nord. La mer du Nord, c'est le rendez-vous huppé de tous les Belges. Voilà, donc il y a des belles boutiques. Et voilà, et ce que j'ai créé, je ne sais pas pourquoi, était juste ce qu'on attendait.
C'est toi qui devais démarcher.
Je faisais tout.
Alors avant de reparler de tout ça et puis de continuer de parler de stylisme, on a toujours tendance à voir, en tout cas pour la haute couture, un monde un peu bling bling, bon, je pense notamment au Fashion Week, etc. C'est quoi ton avis ? Est-ce qu'on peut déconstruire ces clichés pour... Et là, pour moi, je suis là pour ça.
Moi, j'ai construit, mais complètement. J'ai travaillé en haute couture, j'ai eu cette chance comme modéliste chez Scherrer. Voilà. Et c'est le plus beau moment de ma vie. C'est des tissus qu'on ne voit jamais nulle part. Il y a des gars qui arrivaient du fin fond de l'Inde, ils jetaient des rouleaux de gaz, de soie, on appelle ça du gazard, ils jetaient les rouleaux dans le studio du couturier, c'était mais somptueux. À ce moment-là, je devais dormir avec un paquet d'un centimètre de crème sur les mains et des gants en coton, tellement les tissus étaient fins, et que des doigts normaux, ben, on éraillait les tissus en les touchant.
Ouais, donc tu le compares à tout autre art comme la peinture,
c'est un art
etc.
parfait. Oui.
Ok, oui. J'enlève le cliché, bien joué. C'est quoi être un bon ou une bonne styliste ? C'est quoi les qualités qu'il faut avoir ? Même modéliste, hein, d'ailleurs.
Oui, mais je pense qu'il faut savoir regarder les gens. Pour moi, c'est le plus important.
Leur silhouette, etc. Tout, savoir ce qui va les habiller, etc.
Comment ils bougent dans l'espace. Si je dois faire quelque chose, si j'ai une commande, ben je ne discute pas de ce que la personne veut, du tout. Je la fais bouger dans mon salon, avancer, reculer, s'asseoir, boire un verre d'eau, ou d'autres choses d'ailleurs. Voilà, et je vois comment elle bouge. Et en plus de sa morphologie, comment elle occupe l'espace. Et après, on peut tout inventer.
Est-ce que, justement, les couturiers, les couturières doivent suivre, stylistes, modélistes, on se comprend bien, doivent suivre, je dirais, une tendance, ou est-ce qu'ils se laissent aller dans leurs émotions ?
Je ne sais pas trop ce que font en général les autres. Moi, je sais que je fonctionne à l'intuition et à l'émotion, uniquement.
Quels sont les plus beaux moments ou le plus beau moment que tu as vécu en travaillant dans la mode?
Je crois que c'est ça, mon expérience de haute couture.
C'est un monde à part.
C'est un monde complètement à part. Mon mannequin, c'était la sœur de Naomi Campbell, qui s'appelle K.O. Et donc, cette fille était tellement belle, incroyable. Et je devais mouler les vêtements sur elle avec des épingles, juste des ciseaux et des épingles. Je ne cousais pas là-bas, hein. Jamais. Donc j'avais un tabouret, parce qu'elle était tellement grande.
on en a bien l'image.
Voilà.
C'est beau. On va parler de tissus. Est-ce que les tissus se travaillent de manière différente? Est-ce qu'il y a des tissus qui sont plus faciles à travailler? Comment ça se passe? Et comment on les choisit aussi?
Je ne sais pas. Ça, c'est quand même une de mes grandes qualités. Si je suis devant un hangar avec 50 000 pièces, je vais foncer sur des tissus, des vêtements qui pendent, mais sur le tissu et la couleur. Et chaque fois, je tombe sur quelque chose de bien. Donc les tissus, oui, c'est passionnant. Toutes les textures différentes, tout ce qu'on touche dans les mains, il faut jouer avec le tissu, il faut le sentir, il faut le dérouler, il faut voir comment il tombe, comment il... Voilà. Et avec un tissu, on peut faire telle sorte de choses. Et puis un autre sera très différent.
Est-ce qu'il y en a que tu préfères quand même travailler?
Ah ben oui.
Du genre?
Oh ben tout ce qui est... J'aime bien toutes les laines fines. J'aime bien les soies, j'aime bien les cotons.
En plus de ça, ce monde est extrêmement riche. Hein, puisque si on va parler d'un tissu qui vient d'Inde ou d'un tissu africain ou même d'un tissu qui va venir de France tout simplement, c'est très très différent. Et ce que ça doit dégager par les personnes qui l'ont fabriqué, ça doit être extrêmement différent. Est-ce que ça inspire aussi dans la création?
Oui, ça inspire dans la création. Oui.
Toi, le plus beau tissu qui t'est donné à travailler, c'était quoi?
Un gazard de soie.
Qui vient d'où?
Qui venait des Indes. Voilà, une soie naturelle d'une finesse incroyable, complètement, j'oublie le mot, je voudrais dire presque éthéré comme ça, d'un truc translucide. Je ne sais pas si toi tu connais l'organdi.
Pas
ça
du tout,
dit quelque
comme,
chose
comme je te dis, je suis tu très novice là-dedans, je suis là pour apprendre.
Donc de l'organdi, c'est ce que les petites filles mettaient il y a 50 ans quand elles faisaient encore leur petite communion. On leur faisait des petites robes de mariée comme ça, ça c'était souvent en organdi. Mais le gazard de soie... C'est de l'organdi puissance 100. C'est plus fin, c'est plus souple, c'est plus beau. Voilà.
Ça fait flipper aujourd'hui tout ce qui est synthétique.
Ben oui.
T'en travailles pas du tout?
Non, j'en travaille pas du tout. Je déteste ça, je n'aime pas le toucher. En plus, ça me fait des étincelles sur les mains. Et je n'aime pas le coudre. Non, j'aime pas. J'aime pas l'utiliser.
T'as dit que t'avais travaillé pour Scherer, c'est ça? J'ai bien compris. Est-ce que c'est un couturier qui t'a inspiré ou est-ce qu'il y en a d'autres comme ça que tu pourrais citer?
Il y en a beaucoup qui m'ont inspiré. Il y a Albert Elbaz qui vient de mourir. Voilà. Et ça, c'était quelqu'un de... qui avait beaucoup de sensibilité. Il y en a beaucoup, beaucoup qui m'ont inspiré. Vraiment beaucoup. Christian Lacroix, pour moi, il était fabuleux. Voilà, ça c'est des gens que j'aime. Et puis alors t'as les grands classiques, on ne doit jamais renier. T'as un mec comme Saint-Laurent qui était un dieu de la construction d'un vêtement, quoi.
J'ai un l'Allemand aussi qui est décédé il y a 3-4 ans, le plus connu, qui parlait un peu comme ça.
Ben oui.
Lagerfeld, un grand merci. Tu vois où j'en suis là quand même dans la culture.
Dans les grands couturiers, il y en a un que j'adore, c'est Givenchy. Voilà, qui faisait une mode pas excessivement... je sais pas, tout était très féminin, très beau et simple, une simplicité.
Ce qui est extraordinaire, donc vite fait, en préparant un petit peu cette interview, j'ai vu qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont aujourd'hui déjà dans des grandes maisons de couture. Quel regard tu portes sur cette jeunesse, justement, 20, 25, 30 ans,
c'est bien.
Qui sont déjà là, c'est fou.
Oui, c'est bien. Il y en a beaucoup qui vont faire l'école d'Anvers, qui est la plus réputée en ce moment en Europe. Et donc, de l'école d'Anvers, ils repartent comme stagiaires chez des grands couturiers. Je ne pense pas qu'à mon époque, ça se posait comme ça.
Aujourd'hui, tu as un tout petit peu changé de branche, légèrement, tu vends du prêt-à-porter. Comment on choisit un beau vêtement, à ton avis ? Même si j'avoue que c'est peut-être une question un peu personnelle, mais comment expliquer que quelque chose va te plaire et que tu vas avoir envie de le vendre ? Comment on fait ?
C'est ce que je te disais tout à l'heure. D'abord le tissu, la couleur, et une fois que tu as sélectionné un tissu, une couleur, tu regardes la coupe. En général, si c'est un beau tissu, il y a une belle coupe. Voilà.
Est-ce que tout va à tout le monde ?
Non.
je me doutais un peu de la réponse en posant la question. Ouais.
Non. Il faut bien se connaître pour bien s'habiller. Et puis, il faut jongler avec les couleurs. Je trouve que c'est un petit peu dommage quand on regarde le paysage urbain autour de soi. Ben, il n'y a pas tellement de joyeuseté dans l'habillement. Je ne dis pas qu'il faut être élégant. Ça, je m'en fiche. L'élégance, elle peut être en camouflage, elle peut être n'importe quoi. Tu vois, mais je parle de l'élégance, la conception traditionnelle de l'élégance. Ça n'a pas d'importance. Mais que les gens soient un peu fantasques, un peu fantaisistes.
Qu'on ait un peu plus de folie aujourd'hui.
Bah oui, oui.
Moi, je ne sais pas m'habiller et pourtant, on me dit que je suis bien habillé des fois. Ça s'explique.
Un coup de poker.
Ça, c'est peut-être un gros coup de bol. Est-ce que tu dessines encore des habits aujourd'hui ?
Oui, je dessine, oui.
T'as encore envie de créer et de reproposer une collection ?
Je continue à faire plein de choses. Je crée maintenant quasiment dans le wax africain.
Le wax, c'est magnifique.
Oui, c'est très beau. Donc j'ai été complètement séduite par ces wax. J'ai eu la chance de voyager beaucoup, beaucoup en Afrique subsaharienne. Notamment au Togo, où c'est le marché de toute l'Afrique de l'Ouest, est à Lomé. Et donc là-bas, mais tu tombes par terre devant la beauté des wax.
Est-ce que, alors petite parenthèse qui n'a peut-être rien à voir, mais justement les tissus, le wax notamment, est vendu à sa juste valeur, je veux dire monétaire. Parce qu'on parle d'Afrique, donc...
Non, un beau wax, c'est cher. C'est très cher. D'ailleurs, je ne m'en paye pas souvent, mais ils sont trop chers.
Mais tant mieux, ça veut dire que ceux qui le font sont rémunérés à leur juste valeur aussi.
Si tu veux, les wax africains, viennent, les beaux wax, viennent de Hollande. Où ils sont, donc ce sont les Vlisco. Je ne sais pas si on peut faire de la pub, c'est pas grave.
En tout cas, c'est pas grave. Hein. De toute façon, je ne sais pas si le CSA capte quoi que ce soit à ce qu'on est en train de dire.
Donc, ils sont imprimés en noir sur blanc en Hollande. Et les rouleaux de tissu partent imprimés, noir et blanc. Mmh. Et ils les mettent en couleur au Togo.
Passionnant.
Ça, c'est super. Mmh. C'est pour ça qu'il y a souvent dans les wax, tu as des assemblages de couleurs que nous, occidentaux, on n'aime pas. Tu en as d'autres qui sont sublimes, qui sont somptueux. Mais ça dépend des coloristes qu'il y a sur place.
On parle vraiment en plus d'échanges culturels. Là.
Oui,
c'est complètement fou.
Oui.
Quel conseil, s'il en est, hein, tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer dans la mode en tant que styliste ou modéliste, hein, parce qu'on l'a dit, il y a quand même pas mal de métiers dans la mode. Quel conseil tu donnerais ?
Une base de coupe et de couture. Parce que j'ai croisé des stylistes et c'était pas bien, dans la mesure où ils savaient dessiner. Mais ils n'avaient aucune notion de couture, de la façon de faire les choses. Et donc, voilà, j'ai travaillé beaucoup pour des étudiants en Belgique qui étaient en fin d'année, qui devaient présenter des prototypes de leurs vêtements. Et ils ne savaient que dessiner. Ils ne trouvaient personne qui pouvait monter leur collection. J'ai notamment fait quelque chose qui a été passionnant parce que j'aime bien les défis techniques. J'ai fait une collection d'espèces d'insectes pour un étudiant. Il avait fait toute sa collection, tu vois, les doryphores, ou les... voilà. Il y avait toutes des espèces de carapaces, d'ailes, comme ça, partout. C'était magnifique. Bon, mais un truc technique très compliqué à faire.
Et enfin, pour finir, peut-être la dernière question, la haute couture, etc., les prix qui s'enflamment, tout ça, est-ce que ce serait possible de la rendre abordable un peu plus facilement ou pas du tout ?
Non. Non ! Ce n'est pas... C'est réservé à une élite financière, c'est dommage, mais quand tu vois le travail que demande une robe, c'est incroyable, incroyable le nombre d'heures, C'est un truc de fou avec des gens tellement doués pour les fabriquer. C'est incroyable. Bon, je ne sais pas combien se montent les prix d'une robe de haute couture pour le moment. Mais Il y a un savoir-faire qui est vraiment de l'artisanat de grand, grand, grand vol.
Est-ce que dans les pièces que tu as confectionnées, que tu as faites, il y en a où tu te dis « Ah, celle-là, j'aurais bien voulu la garder pour moi parce qu'elle est magnifique et que tu y as mis un truc particulier ?»
Mais je les garde.
Ah, bah tu les gardes. Il n'y en a pas une comme ça où tu te dis « Ah, mais si, bah, parce que, comme on disait tout à l'heure, que tu regardes les gens, etc. Oui. » Et là, tu vois quelqu'un qui porte bien ton avis, est-ce que...
Non, je suis contente. Je suis contente si la personne se sent bien à l'aise dans une création que je lui ai faite et tout. Mais je les laisse partir avec vraiment plaisir. Et quand je veux quelque chose, je me le fais, donc il n'y a pas de problème.
Ou l'avantage, c'était ma grande première. Merci beaucoup, Élise.
Mais voilà.
Et voilà.
Ben, à bientôt.
Avec plaisir, parler de stylisme et de modélisme. Grande première sur cette antenne. À très bientôt et bonne route.
Ok.
Avec plaisir. En plus, tu as la voix qui chante mon pays, du coup.
Merci à toi.
Merci.
Au revoir.
Pourquoi je n'ai pas de son ? Tiens, c'est marrant. Parce que, voilà, je n'avais pas de son parce que je me plante de micro. Ça arrive. Voilà, c'est la fin de cette matinale. Merci, Corto. Enfin, t'avais bien mis le bon micro.
Avec plaisir, avec plaisir.
Je suis juste planté. On se retrouve lundi pour parler du spectacle Zaï 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 du Blue Tack Théâtre qui aura lieu à Mende le week-end d'après. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée. Il pleut, ça fait du bien. Et tiens, je viens d'avoir une bonne nouvelle, c'est qu'on parlera aussi d'élevage de chevaux ce lundi, du coup ça va être trop bien. Il pleut, ça fait du bien, merci à toutes et tous de nous suivre. On se quitte avec Nougaro, que j'avais envie d'écouter ce matin et lui rendre hommage, l'excellent Claude Nougaro, Bidonville. À lundi, portez-vous bien, ciao.
Regarde-la ma ville, elle s'appelle Bidon. Bidon, bidon, bidonville, vivre là-dedans c'est coton. Les filles qui ont la peau douce la vendent pour manger. Dans les chambres l'herbe pousse pour y dormir. Faut se pousser, les gosses jouent. Mais le ballon c'est une boîte de sardines, bidon. Donne-moi ta main, camarade, toi qui viens d'un pays où les hommes sont beaux. Donne-moi ta main, camarade, j'ai cinq doigts moi aussi, on peut se croire égaux. Regarde-la ma ville. Elle s'appelle Bidon, 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 Bidonville. Me tailler d'ici, à quoi bon? Pourquoi veux-tu que je me perde dans tes cités? À quoi ça sert? Je verrai toujours de la merde, même dans le bleu de la mer. Je dormirai sur des millions, je reverrai toujours Bidon. Qui vient d'un pays où les hommes sont beaux. Donne-moi ta main, camarade, j'ai cinq doigts moi aussi, on peut se croire égaux. Serre-moi la main, camarade, je te dis au revoir, je te dis à bientôt, bientôt. Bientôt, on pourra se parler, camarade. Bientôt, bientôt, on pourra s'embrasser, camarade. Bientôt, bientôt.
bientôt les oiseaux, les jardins, les cascades. Bientôt, bientôt, le soleil dansera, camarade.